C'est bon? Ok. Donc, de toute façon, je n'ai pas commencé le message, donc ça peut aller. Donc, je suis originaire du Sénégal et ça fait 6 ans que je suis venu ici au Canada. J'ai été sauvé en 2017 pendant que je faisais mes études d'ingénierie au Sénégal. Et pendant tout ce temps, le Seigneur m'appelait pour son service, mais j'étais un peu hésitant. C'est quand je suis venu ici au Canada que le Seigneur m'a convaincu et que je suis parti à l'école publique, à Faithway Baptist College. En Ontario, où j'ai fait mes 4 ans d'études publiques et j'ai fini en avril passé. Donc actuellement, je sers à l'église baptiste centrale de Laval comme assistant pasteur au pasteur Éric Léveillé. Donc c'est tout ce que je pense que j'ai tout dit sur moi. Donc nous allons ouvrir nos Bibles en Jacques, le chapitre 1. Mais nous n'allons pas regarder tout le chapitre, nous allons juste voir à partir du verset 19, du verset 19 au verset 27. Le chapitre 1 de l'épître à Jacques est un chapitre très pratique, et toute l'épître de Jacques est très pratique. Certains l'appellent comme étant les proverbes du Nouveau Testament. Alors le chapitre 1 commence par Jacques se présente d'abord. Il dit qu'il est le serviteur de Dieu et qu'il est le frère du Seigneur Jésus-Christ. Et il nous fait alors à qui il écrit cette épître. Il écrit cette épître aux 12 tribus d'Israël, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Donc ça veut dire qu'il écrit cette épître à des gens qui sont chrétiens, mais qui sont juifs, mais qui sont dispersés tout au long de l'Empire romain. Alors, tout au long de l'Empire romain, ils sont dispersés, mais ils font face à une persécution. D'un côté, ils font face à la persécution des juifs, parce que cela les considère comme étant des traîtres qui ont trahi la religion juive. Mais aussi, ils font face à la persécution de l'Empire romain, des Romains. Parce que les Romains les considèrent comme étant des athées, comme étant des gens qui sont des rebelles à l'État. Donc, face à tout cela, alors, Jacques leur écrit cette épître pour les encourager à marcher d'une manière digne du Seigneur. Alors, il commence par leur dire, vous allez avoir des souffrances. Vous allez passer par des épreuves. Il leur dit, mais ces épreuves, il y a une bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, ce ne sont pas des épreuves que vous allez provoquer, mais ils vont tomber sur vous. Il ne parle pas ici d'épreuves qui sont que les gens, d'eux-mêmes, par ce qu'ils ont fait, sont tombés sur eux. Mais ce sont des épreuves qui viennent sur eux sans qu'ils ne le veuillent. Alors, il leur dit, quand ils vont tomber sur vous, sachez que c'est le Seigneur qui les prépare afin de pouvoir faire en vous l'œuvre qu'il veut. C'est que vous puissiez être patient et que vous deveniez des hommes et des femmes parfaits. Alors, il continue et il leur dit, vous pouvez manquer de la sagesse. Il leur dit, si vous pouvez manquer de la sagesse, il leur dit, si quelqu'un manque de la sagesse, alors qu'il le demande à Dieu. Vous pouvez manquer de la sagesse, mais il y a une bonne nouvelle. C'est qu'il y a une source de sagesse. Et qui est Dieu. Et Dieu la donne de façon libre, sans pour autant que nous puissions faire quelque chose. Alors il continue, il le dit aussi, faites attention à la tentation. Elle peut venir. Mais la source de tentation n'est pas Dieu, mais elle est en nous-mêmes, nos propres convoitises. Et il continue par cela, et nous arrivons ici à notre texte d'aujourd'hui. Il va clôturer ce premier chapitre par 3 exhortations. Ces 3 exhortations que je voudrais que nous puissions voir aujourd'hui, ce sont des exhortations qui sont importantes pour nous, afin que nous puissions avoir une vie chrétienne fructueuse. Une vie chrétienne fructueuse. Alors voici ce que la parole de Dieu nous dit. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Alors, il clôture ce premier chapitre par trois exhortations. Et je voudrais que nous puissions voir, premièrement, une exhortation à faire attention à la colère. Voici ce qu'il dit. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère est l'un des fruits de notre nature pécheresse qui est très dévastatrice. Et surtout au milieu de nos épreuves. Rappelons-nous qu'il parle à des gens qui sont au milieu de beaucoup d'épreuves et de persécutions. Donc la possibilité de développer une colère est là. Une colère à l'égard de ceux qui sont en train de le persécuter. Parce qu'ils les persécutent de façon injuste. Mais il y a une autre colère qui est encore plus dangereuse. C'est de développer une colère vis-à-vis de Dieu. Car au milieu de notre persécution, nous pouvons développer une colère vis-à-vis de Dieu en disant que Dieu, qui est tout puissant, croise les bras et nous laisse passer dans ces persécutions. Nous sommes après tout ses enfants. Mais pourquoi il croise les bras et nous laisse passer par la persécution? Mais Jacques nous rappelle ici une vérité essentielle. Que nous voyons tout au long de l'Écriture, c'est que la colère de l'homme n'accomplit jamais, jamais la justice de Dieu. Notre colère ne peut pas accomplir la justice de Dieu, car contrairement à la colère de Dieu, la colère de l'homme ne produit jamais quelque chose qui est bien et finit souvent par le meurtre. La première tragédie que nous voyons dans la Bible. La première fois que nous allons voir une tragédie après le jardin d'Éden. Après le jardin d'Éden, la première tragédie que nous voyons est le fruit de la colère. Souvenez-vous de Genèse 4, du verset 4 au verset 7. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèverais ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Caïn ne fera pas attention à cette colère. Et quelques versets plus tard, nous voyons que Caïn tue son frère. En Genèse 34 nous montre l'histoire d'une colère. Deux frères, Siméon et Lévi, à cause de la colère qu'a provoqué le viol de leur sœur Dina, vont détruire toute une ville. Ils vont détruire toute une ville à cause de cette colère. et ils vont mettre la vie du peuple de Dieu en danger. Et Jacob sera obligé de déplacer toute la famille. Et dans ce processus de déplacement, Rachel va mourir. Elle était très fatiguée par le voyage alors qu'elle était enceinte. Donc cette colère va produire beaucoup de mal. Et quand nous continuons, nous pouvons voir la colère de Saül. À cause de sa colère, il va poursuivre David tout le restant de sa vie. Et cela va l'amener à sa perte, lui. Jonas va se mettre en colère simplement parce que Dieu a été miséricordieux à l'égard de Ninive. Vous voyez que c'est une colère injuste. Et même Moïse, qui a reçu le témoignage de l'homme, d'un homme très doux et patient, fut empêché d'entrer dans la terre promise à cause de sa colère. Vous vous souvenez, à cause de sa colère, il va taper le rocher au lieu de parler au rocher. Il va taper le rocher au lieu de lui parler. Et Dieu va lui dire, tu ne m'as pas honoré devant mon peuple. Chers frères et sœurs, notre nature pécheresse et le péché qui est en nous déforme notre colère. Corrompt notre colère au point que nous ne pouvons pas faire confiance à notre colère. Même quand nous disons que c'est une sainte colère, une colère juste, le péché, elle est toujours teintée du péché. La marque du péché est sur elle. Alors ne faisons pas confiance à la colère. Le psaume 37, 8 nous dit, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Proverbe 19, 11 nous dit, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Ecclésiaste 7, 9 nous dit, ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter. Car l'irritation repose dans le sein des insensés. Alors que faire face à la colère? Jacques nous donne ici quelques pistes. Il nous dit premièrement, au verset 19, que tout homme soit prompt à écouter. Vous savez, on peut éviter beaucoup de colère parce qu'on est prompt à écouter. Souvent parce qu'on ne nous écoutons pas, nous ne comprenons pas ce que l'autre est en train de dire. Et parce que nous ne comprenons pas, cette incompréhension provoque de la colère chez nous. Ou bien provoque des réponses qui vont à leur tour provoquer de la colère chez l'autre. Alors soyons prompts à écouter. Il parle ici d'une écoute active, où on écoute avec le désir de comprendre le point de vue de l'autre. Avec le désir de savoir ce que l'autre veut, en se plaçant dans la peau de l'autre. C'est cette écoute que Jacques nous dit ici. Mais pour que cette écoute puisse avoir lieu, il faut que nous soyons lents à parler. On ne peut pas écouter tout en parlant. Il faut faire l'une ou l'autre. Donc alors il nous dit, soyez lents à parler. Le chapitre 10, 19 nous dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Quelquefois, nous aimons parler. Nous aimons parler. Mais ce n'est pas à toutes les situations qu'il faut parler. Quelquefois, le silence est un bon remède. Proverbe 12, 18 nous dit, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison. Le proverbe 21, 23 nous dit, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Alors, faisons attention à comment nous utilisons nos paroles. Car quelquefois, ils peuvent blesser et provoquer de la colère chez l'autre. Quelquefois, il suffit juste que nous nous taisions pour que alors le problème soit réglé et que nous n'attisions pas le feu de la colère. Et il finit par dire, lent à se mettre en colère. Proverbe 15:18 nous dit, un homme violent excite les querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Alors, quelques actions que nous pouvons prendre. Quand malgré toutes nos précautions, nous nous retrouvons au milieu de la colère. N'est-ce pas? On peut se retrouver au milieu de la colère. Malgré toutes les précautions que nous pouvons prendre. Alors, juste une piste de réflexion. La première des choses que je nous propose de faire, c'est n'agissons jamais sous le coup de la colère. Laissons passer la vague de la colère. En effet, la colère nous empêche de prendre des décisions sages et des décisions rationnelles. Même la science, la dernière fois que je faisais cette étude, je regardais sur l'internet et une étude des scientifiques disait que quand quelqu'un est en colère, il ne prend jamais des décisions rationnelles. Le cerveau n'est plus en mesure de prendre des décisions de façon rationnelle. Alors, laissons passer la colère afin que nous puissions avoir le discernement et le bon jugement face à la situation. La deuxième des choses que je nous propose de faire, débarrassons-nous de la colère le plus rapidement possible. Débarrassons-nous des racines de la colère dès que nous sentons qu'elle est en train de venir. Prenons-la et jetons-la. Éphésiens 6, 26 à 27 nous dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Alors, dès que ça vient, enlevons-le et jetons-le. Débarrassons-nous de notre colère, car si nous la laissons prendre racine, alors nous donnons accès au diable. Et cela peut conduire au meurtre, comme nous l'avons vu. La troisième chose, c'est que faisons attention à la colère des autres. Car la colère est très contagieuse. Proverbe 22 nous dit au verset 24, « Ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers. » Et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Faisons attention à la colère des autres, car elle peut nous contaminer. Et enfin, laissons la parole de Dieu travailler dans nos cœurs, afin de nous transformer chaque jour en des hommes et des femmes qui sont lents à la colère, pleins de miséricorde, car notre Père est lent à la colère et plein de miséricorde. La question qui mérite d'être posée pour nous est celle-ci. Comment gérons-nous notre colère? Laissons-nous Dieu nous transformer par sa parole en des hommes et en des femmes qui sont lents à la colère. Comment gérons-nous notre colère? L'apôtre, le frère Jacques nous interpelle en nous disant que notre colère ne va jamais accomplir la justice de Dieu. Alors après avoir exhorté ses concitoyens concernant la colère, car chers frères et sœurs, ce que nous bâtissons d'une main, nous pouvons le détruire d'une autre main par notre colère. Nous pouvons détruire d'une autre main par notre colère. Des vies, nous pouvons, nos mariages, nos relations, nos églises, et beaucoup, nous pouvons juste les détruire par notre colère. Après cela, il leur donne une seconde exhortation. À partir du verset 21 au verset 25, il les exhorte sur leur attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Car vous savez que la parole de Dieu a un rôle très important, aussi bien dans la colère, mais aussi dans notre vie de tous les jours. Il commence par leur faire un appel solennel à recevoir la parole de Dieu. Au verset 21, voyez ce qu'il dit. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu va déterminer l'impact qu'elle va avoir dans notre cœur. Le travail que la parole de Dieu va faire dans notre vie dépend de comment nous la recevons. C'est pourquoi Jacques nous dit « Recevez la parole avec douceur. » Pas avec une attitude de défaillance. Je ne veux pas recevoir. Mais il nous dit, recevez-la avec douceur. Laissez-la venir à nous. Tant que nous ne laissons pas cette parole travailler dans nos cœurs, elle ne pourra pas faire son effet. L'apôtre Paul, en rendant témoignage aux Thessaloniciens, dit ceci. À 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est, véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Et vous voyez, cette attitude des Thessaloniciens vis-à-vis de la parole de Dieu a produit trois réalités essentielles dans cette église. Et ces réalités, vous pouvez les voir en 1 Thessaloniciens, le chapitre 1. Premièrement, le salut. Ils ont reçu le salut parce qu'ils se sont tournés des idoles au Dieu vivant et vrai. Et deuxièmement, vous allez voir que la parole de Dieu va retentir du milieu des Thessaloniciens dans toute l'Achaïe et la Macédoine. Et troisièmement, leur foi en Dieu va se faire connaître en tout lieu. Mais cela ne s'est pas passé juste en un clin d'œil comme ça. C'est parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu comme étant celle de Dieu, avec douceur, et ils ont laissé la parole de Dieu travailler. Et cela a produit du fruit. Toute notre vie chrétienne dépend de comment nous recevons la parole de Dieu. Notre nouvelle naissance dépend de comment nous recevons la parole de Dieu. Si nous voulons être sauvés, c'est par la parole de Dieu. C'est l'évangile qui nous sauve. Si nous ne recevons pas l'évangile, nous ne pouvons pas être sauvés. Donc cette parole de Dieu, et si nous résistons à l'évangile, résistons à la parole de Dieu, alors nous ne pouvons pas venir à cette nouvelle naissance. Alors notre nouvelle naissance dépend de la parole de Dieu. Jacques au chapitre 1, 18 nous dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Il nous a engendrés par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Notre sanctification progressive en tant qu'enfant de Dieu dépend de cette parole. Jean 17, le verset 17 nous dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est vérité. Notre sanctification se fait par cette parole. Et 2 Timothée 3, 16 à 17 nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc vous voyez, la manière dont nous recevons cette parole dans nos cœurs et comment nous la laissons travailler va déterminer qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Au Sénégal, nous avons une... Quand quelqu'un est en train de parler à quelqu'un d'autre qui n'écoute pas, on est en train de dire qu'il est en train de jeter, on prend une illustration, il jette l'eau sur le dos d'un canard. Je ne sais pas, je pense que ça existe aussi. Jeter l'eau sur le dos d'un canard. Vous savez, quand vous jetez l'eau sur le dos d'un canard, ça tombe juste. Et c'est la même chose quand nous ne laissons pas la parole de Dieu, nous ne la recevons pas avec douceur. Nous devenons comme une pierre et l'eau juste tombe et s'en va. Cette parole juste tombe et s'en va. Nous ne la laissons pas, elle ne rentre pas en nous. Elle fait cette œuvre de transformation. Mais non seulement il les appelle à recevoir la parole de Dieu avec douceur, il continue en les appelant à mettre en pratique cette parole. De même qu'une foi sans œuvre est morte, une vie chrétienne sans pratique de la parole de Dieu est stérile et sans fruit. Elle est stérile et sans fruit. Jean 13, 17 nous dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. Le psaume 119 nous dit, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon le conseil de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point l'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Dieu a prescrit ses ordonnances pour que nous les observions avec soin. Alors, quelles sont les conséquences de notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu? Il y a deux conséquences que Jacques nous dit ici. La première, c'est que quand nous n'appliquons pas cette parole, nous sommes semblables à un homme qui regarde sa propre personne dans un miroir et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt comment il était. Il nous dit que c'est comme si moi, Jacques, je me réveille le matin, je regarde devant le miroir et j'ai tous les cheveux en désordre. Au lieu de prendre un peigne et de pouvoir arranger les cheveux, bon, je les laisse comme ça et je repars. Je suis sûr que si je me présentais devant vous, vous allez me regarder et vous allez dire où est-ce qu'il s'est... D'où est-ce qu'il vient? Vous voyez que ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose que nous faisons quand nous regardons, quand nous plongeons nos regards dans le miroir de la parole de Dieu. Et après nous être relevés, nous allons vaquer à nos occupations sans pour autant faire ce qu'elle nous demande de faire. C'est la même chose. Mais comment peut-on arriver à nous regarder dans un miroir et après partir sans faire ce que nous devons faire? Regardez bien ce qu'il dit. Il dit, mettez en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par quoi? Vous-même par des faux raisonnements. Vous savez, chers amis, les raisonnements et les philosophies des hommes sont les plus grands ennemis en ce qui concerne la pratique de la parole de Dieu. En effet, c'est eux qui convainquent les hommes du monde que Dieu n'existe pas, que la parole de Dieu n'est pas vraie, mais n'est juste qu'un livre plein de fables. Ce sont nos faux raisonnements et les philosophies du monde. Mais c'est eux aussi qui convainquent les enfants de Dieu. Elles nous laissent demeurer captifs et ne pas agir en fonction de ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il va défendre son ministère aux Corinthiens, en 2 Corinthiens 10, 4 à 5, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et regardez ce qu'il dit. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les faux raisonnements sont des forteresses qui nous emprisonnent et qui sont très difficiles à enlever. Et ce sont ces faux raisonnements qui nous empêchent d'obéir à la parole de Dieu. C'est un combat spirituel, ce n'est pas un combat charnel. L'obéissance à la parole de Dieu est un combat spirituel, surtout dans le siècle présent où nous sommes. Car les forteresses sont de plus en plus grandes et sombres. Nous avons affaire à des philosophies les plus bizarres et irrationnelles. C'est bizarre et irrationnel. Comment tous ces faux raisonnements sont entrés dans notre société? Même ce qui est irrationnel est considéré aujourd'hui comme étant la norme. Alors c'est un combat spirituel que nous ne pouvons pas gagner avec notre chair, mais qui par la vertu du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu, nous pouvons faire tomber et détruire. Rappelez-vous en 2 Timothée 4, 1, que l'apôtre Paul dit, je t'en conjure, prêche la parole, insiste en tout. Car le temps va venir où les gens vont vouloir entendre ce qui leur plaît. Et ils vont se créer une foule de docteurs. Car ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Chers frères et sœurs, faisons attention aux forteresses des faux raisonnements. Nous pouvons les avoir en tant qu'enfants de Dieu. Mais ce sont ces forteresses qui, eux aussi, éloignent ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais la deuxième des conséquences qu'il nous dit, c'est la conséquence positive. Quand nous appliquons cette parole, il dit, nous serons heureux dans nos activités. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Car nous retenons la parole de Dieu comme un trésor dans notre cœur et que nous la mettons en pratique, alors nous serons heureux dans notre vie. Le psaume 1 nous dit, heureux l'homme qui marche selon les conseils des... qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moteurs, mais qui trouve quoi? Son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Amen. Pour mieux comprendre cette exhortation de Jacques, nous pouvons ouvrir nos Bibles en Matthieu 7. Matthieu 7, le verset 24 au verset 27. Matthieu 7, 24 à 27. Voici ce que la parole de Dieu dit. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Chers frères et sœurs, il suffit juste de lever les yeux et de regarder autour de nous. Les vies de ceux qui sont autour de nous, nos vies à nous-mêmes, pour nous rendre compte que beaucoup de vies sont aujourd'hui un grand champ de ruines, simplement parce qu'elles ont été bâties sur le sable des faux raisonnements et philosophies de ce monde. Et quelquefois, la ruine a été très, très grande. Mais aussi, nous pouvons voir plusieurs vies qui ont été changées, qui ont changé de direction, simplement parce qu'elles ont reçu avec douceur la parole vivante et elles l'ont laissé les transformer. Ils ont gardé cette parole et ils ont persévéré. Le diable, les épreuves, les tourbillons, les tempêtes, tout s'est abattu sur eux. Mais ils sont restés debout. Vous voyez, quand l'ouragan Ian s'est passé en Californie, vous avez les palmiers. Pendant que le vent soufflait, qu'est-ce que les palmiers faisaient? Les palmiers se baissaient juste. Ils se courbaient et laissaient le vent passer. Quand le vent est passé, les palmiers se sont relevés et sont restés droits, tels qu'ils étaient. Alors quand nous bâtissons notre vie dans le Seigneur, nous devenons comme cela. Les ouragans, les épreuves, tout vient et passe. Nous nous courbons juste. Cela veut dire que ça va faire mal, n'est-ce pas? Il y aura de la souffrance. Il y aura de la lutte pour rester en vie. Nous allons même perdre certaines feuilles. Mais quand le vent va passer, nous resterons debout. Nous resterons debout. Parce que nous avons bâti notre vie sur le roc qui ne change pas. Alors, quelques questions pour nous. Recevons-nous la parole de Dieu avec douceur? Si oui, que faisons-nous d'elle? Qu'est-ce que nous faisons d'elle? Nous la recevons, la mettons-nous en pratique. Alors nous voyons ici qu'il nous a exhortés à faire attention à la colère. Il nous exhorte à recevoir la parole de Dieu avec douceur et à la mettre en pratique. Et il finit par nous exhorter à avoir une vie chrétienne authentique. Une vie chrétienne vraie. Il termine son exhortation en demandant à ses frères de vivre une vie chrétienne authentique. Et pour cela, nous allons voir trois ingrédients essentiels qu'il va nous donner pour que cette vie soit authentique devant tout le monde. La première des choses, il dit de contrôler notre langue. Voyez ce qu'il dit. Au verset 26, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La parole de Dieu nous exhorte à plusieurs reprises de prendre garde à l'utilisation de notre langue. Nous l'avons vu au début, avec la colère. Même il nous dit de prendre garde à l'utilisation de notre langue. Proverbe 18, 20 nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Il en mangera le fruit. Avoir le contrôle de notre langue va avoir pour résultat de contrôler nos paroles. Et c'est aussi la preuve de notre maturité chrétienne. Notre maturité chrétienne aussi doit avoir un impact sur comment nous utilisons notre langue. Car tout ce que nous bâtirons avec nos mains, nous pouvons juste le détruire par notre colère et notre langue. Nous pouvons le détruire si nous ne contrôlons pas notre langue. Mais il leur dit aussi de prendre soin des vulnérables. Regardez au verset 26, il dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. » Les veuves et les orphelins dans le temps ancien étaient très vulnérables. Et ce que Jacques demandait à ses concitoyens, à ses frères et sœurs dans le Seigneur, de se souvenir de ces veuves et ses orphelins. Il y avait un historien qui disait que l'Église primitive a eu un si grand impact parce qu'il prenait soin de ceux qui étaient vulnérables. Dans l'Empire romain, ces gens qui étaient vulnérables étaient livrés à eux-mêmes. Et c'était seulement dans l'Église qu'ils trouvaient une acceptance. Alors, Dieu nous demande de pouvoir nous rappeler de ceux qui sont vulnérables. Si les diacres ont été instaurés en acte 6, c'est à cause des vulnérables. C'est à cause des veuves que l'instauration des diacres a été. Et même en 1 Timothée, l'apôtre Paul, Timothée chapitre 5, l'apôtre Paul va dire à Timothée de s'occuper des veuves. Donc c'est une chose très importante. Alors en tant qu'Église, nous devrons, et en tant que chrétiens, nous devrons penser aux vulnérables. Cela doit être dans notre cœur. Car il nous dit ici, c'est la religion pure et sans tâche. Et il finit par dire de se préserver des souillures de ce monde. Nous vivons dans un monde immoral. Aujourd'hui, c'est une agression, ce n'est plus une passivité. Le monde nous agresse. Partout. Et il le fait non plus sans se cacher. Il y a de cela quelques années, c'était durant la nuit. Mais aujourd'hui, c'est en plein jour, devant notre face. Chers frères et sœurs, c'est le temps de ne pas dormir. Quand je dis dormir, je ne dis pas de ne pas dormir la nuit. Mais de ne pas laisser notre esprit s'assoupir. Mais nous devons combattre. Nous devons nous revêtir des armes qui nous sont données en Éphésiens 6. Et par-dessus tout cela, prier incessamment et combattre. Car aujourd'hui, l'agressivité de ce monde ne nous laisse pas, ne va pas nous laisser tranquilles. Aujourd'hui, c'est de l'agression. Donc, il faut bien se défendre. Et nous n'allons pas nous défendre avec des armes de la chair. Nous pouvons nous défendre qu'avec des armes spirituelles. Il est temps que nous puissions mettre sérieusement acte 2, le chapitre 42. Voici ce que l'on disait de l'Église primitive. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Je pense que ces trois choses peuvent nous aider à tenir ferme et à nous éloigner des souillures de ce monde. Alors, pour terminer ce matin, je voudrais que nous puissions évaluer nos vies. Est-ce que nous pouvons dire avec certitude que nous vivons une vie chrétienne authentique? Est-ce que celui qui nous voit de l'extérieur peut dire « Celui-là, c'est un enfant de Dieu » avant même que nous ouvrons la bouche? Est-ce que ceux qui nous regardent peuvent dire vraiment « Celui-là est un chrétien » qui veut dire un petit Christ? Alors rappelons-nous que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Soyons prompts à écouter, lents à parler et lents à nous mettre en colère. Nous devons non seulement recevoir la parole de Dieu avec douceur, la laisser transformer nos cœurs, mais aussi nous devons la pratiquer, la mettre en pratique afin d'avoir une vie heureuse. Enfin, nous devons vivre notre vie chrétienne de façon authentique, en ayant un contrôle sur notre langue, en prenant soin des vulnérables et en nous préservant des souillures de ce monde. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Père éternel Dieu, nous te disons merci. C'est toi qui nous as permis ce matin de nous retrouver. non seulement pour te louer, mais pour entendre de ta part. Alors nous te demandons que ce que nous avons entendu, que cela puisse tomber dans la bonne terre de nos cœurs et que cela puisse produire du fruit et du fruit en abondance. Je voudrais que nous puissions prendre une minute, que chacun puisse s'examiner par rapport à ce qui a été dit. Comment gères-tu ta colère? Comment reçois-tu la parole de Dieu? Si tu n'es pas sauvé, est-ce que tu peux laisser la parole de Dieu te parler? Peux-tu recevoir avec douceur cette parole de Dieu afin qu'elle puisse être en mesure de te transformer? Accepter cette parole de Dieu, accepter l'évangile, que Christ est venu sur la terre mourir pour toi, toi pécheur. Et qu'en mettant ta confiance en ce sacrifice et en lui demandant de te sauver, il peut le faire. Peux-tu le faire aujourd'hui? Que faisons-nous de la parole que nous recevons? La mettons-nous en pratique? Alors, enfin, vivons-nous de façon authentique, en ayant contrôle sur notre langue, sur nos paroles, en prenant soin de ceux qui sont vulnérables et en nous préservant des sujets de ce monde. Que chacun puisse y réfléchir.
Qui veulent prier à voix haute, vous avez l'occasion de le faire maintenant.
Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce que nous venons d'écouter, les messages de ta parole. Te rendre grâce parce que c'est ta parole qui est notre lumière pour traverser dans toutes les épreuves du monde. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint qui était déjà au milieu de nous. Et ton esprit qui a dirigé Frère Jacques pour nous avoir et transmettre ce message. C'est par ta grâce qui est toujours là. Et nous qui l'avons écouté, qu'il soit pas seulement pour l'écouter, mais qu'on mette toujours en pratique cette parole, la parole de vie. Que lorsque il y aura les vents qui vont toujours venir, qu'ils nous trouvent que nous sommes déjà fondés sur les rocs, et que les rocs, c'est toi, Seigneur Jésus, qui au fondement de notre vie, de nos vies quotidiennes. Mais nous avons, Seigneur, un cœur nouveau, mais nous avons un esprit nouveau qui va être transformé par toi. Seigneur, nous voulons marcher selon tes désirs, selon ta volonté, à travers de ta parole. Donne-nous la sagesse de marcher avec toi. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Oui, Seigneur Dieu, dans ce monde, les tentations, effectivement, peuvent être grandes à différents égards, de différentes manières. Seigneur, ce qui nous est présenté, comme Jacques nous le disait tantôt, ce qui nous était présenté autrefois, en fait, qui était... qui se faisait dans la nuit, en secret, se fait maintenant en plein jour, devant notre face. Et c'est de ces choses-là que le monde veut nous souiller. Et parce que c'est un monde de ténèbres qui est là. Puis, Seigneur Dieu, toi, tu ne nous as pas appelés à vivre à la manière du monde. Tu nous as appelés, Seigneur, à vivre à ta manière, à travers le monde, pour que nous puissions être la lumière dans ce monde de ténèbres, Seigneur Dieu. Et préserve-nous de toute souillure, Seigneur Dieu, que l'on puisse marcher à ta volonté et être cette lumière comme tu nous as appelé.